Éric Lantier, salutations. Comment ça va?
Bon, messieurs. Ah, ça va bien.
Content de te parler pour une dernière fois de la saison. On a beaucoup de matériel et peu de temps. Alors, on va s'atteler à la tâche tout de suite. Toi qui es un ancien directeur d'école et qui a une maîtrise en éducation, est-ce qu'on le dit comme ça? Non?
Oui,
oui. Oui, OK. Tu connais bien le premier sujet qui est les entités parascolaires. Le parascolaire, les fameuses... activités qui tournent autour de ce qu'il y a à l'école primaire, principalement, un peu au secondaire. On pense à changer le mode de gestion de ça. J'ai hâte de t'entendre comment tu vois la chose et de quoi il s'agit.
Ben, moi, comme on le dit souvent, on est pour la vertu, sauf toi, là, mais
non,
je sais que
la vertu, c'est mal.
Quoi? On est pour la vertu. Moi, d'emblée, je suis pour à cette initiative-là qu'on puisse injecter de l'argent afin que nos jeunes puissent avoir des activités qui vont les passionner, qui vont les stimuler, qui vont leur lancer des défis, que ce soit artistique, que ce soit scientifique, que ce soit sportif, culturel. À ce moment-là, c'est que ça donne un sentiment d'appartenance. Quand tu fais partie d'une équipe, quand tu fais partie d'un groupe, quand, par exemple, tu as un chandail auquel tu t'identifies, c'est positif et la recherche l'a démontré. Les écoles qui sont ouvertes pour permettre à des jeunes de se mobiliser, d'être encadrés dans le cadre d'activités parascolaires, mais ça encourage, ça stimule la rétention aux études, ça stimule, ça va à l'encontre du décrochage scolaire parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée.
Dans la région ici, un exemple probant de ça, c'est l'école Cardinal Roy en Basseville à Québec. Ils ont misé là-dessus puis ils ont amélioré leur score tous acabis de merveilleuse façon au cours des dernières années. On est d'accord? Maintenant, là, les syndicats, peut-être, si on remet des choses en question, on pourrait se rebiffer parce que on a évoqué de la sous-traitance là-dedans. Tu voulais traiter la chose un peu.
Ben, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'il y a toujours un côté pervers à tout ce qu'on fait. Puis je me dis, ça va être important que les directions d'école, j'ai été directeur d'école, qu'on puisse donner une grande marge de manœuvre aux directeurs d'école ou aux directrices d'école, parce que il y a un discernement à avoir. Parfois, ça rentre pas tout à fait dans les règles, mais les objectifs et les moyens sont louables. Et je crois que là-dessus, les syndicats vont devoir travailler de pair avec les directions d'école, avec les enseignants, avec ceux qui vont vouloir s'impliquer avec les jeunes pour faciliter la tâche et non pas d'alourdir le processus pour arriver en bout de ligne que ça fonctionne pas. Alors, si la meilleure solution dans un cas X, c'est la sous-traitance ou faire affaire avec une entité déjà existante, admettons qu'il y a des jeunes qui se dépensent, qui se démarquent en matière, par exemple, d'activité sportive. On parle de hockey, d'un club de hockey. Il y a déjà un club dans le quartier. On va louer un autobus et on dit, OK, on va se joindre à eux. Mais pourquoi pas, plutôt que de réinventer un nouveau club, réinventer une nouvelle ligue, si elle existe déjà. Alors, je pense que les syndicats vont devoir agir avec discernement dans ce cas-ci.
Pas de doute là-dessus, parlant de discernement, ça en prend beaucoup pour traiter le dossier d'aide médicale à mourir. Ça a été très long comme processus pour en arriver à une permission en ce sens-là. Et tu as des choses à dire sur ce dont il est question pour les temps qui courent, c'est-à-dire élargir la chose. Là, on a parlé de l'Alzheimer, mais on est dans le temps qu'à y être aussi, comme une blonde qui évalue une cuisine avec des possibilités de réno.
Qu'est-ce
que c'est? On a tant qu'à faire, chérie. Tant qu'à faire, on ne va pas rien que changer les armoires. On va y aller avec la plancher, la céramique, nanana. Mais je suis curieux de t'entendre sur ces possibilités-là. Éric Lantier, est-ce qu'on devrait arrêter ça? Ou c'est là? Peut-être permettre l'Alzheimer, peut-être aller encore plus loin maintenant, la détresse psychologique tous à Kaby.
Ben c'est ça, ce qui arrive, c'est que depuis 2017, là, on entend de plus en plus dans les médias, autant écrit que parlé, on entend qu'on veut ajouter non seulement l'Alzheimer, mais on se penche, il y a des experts, il y a des chercheurs qui sont en train de proposer à ce qu'on élargisse jusqu'aux adolescents, jusqu'aux 12 ans et plus, que les 12 ans et plus puissent avoir les mêmes privilèges ou les mêmes droits que les adultes. Alors, dès qu'on ouvre la porte, dès qu'on parle d'élargissement, c'est sûr qu'on ouvre la porte à tous les comités ou à tous les groupes de pression qui vont vouloir défendre leur idéologie, leur perspective là-dessus. Maintenant, quand on avait... Moi, je sais, j'ai participé en 2009 aux délibérations des commissions parlementaires sur l'aide médicale à mourir.
Ouais,
il y a une chose qui est ressortie, qui est très intéressante, c'est que la plupart qui avaient des réserves ou qui s'opposaient, parce qu'il y en avait des plus modérés et des plus radicaux, ben, il y avait quelque chose qui ressortait, c'est que selon les témoignages, selon les faits vécus, je l'ai moi-même vécu,
okay. C'est
qu'en fin de vie, quand quelqu'un là est vraiment en phase terminale, puis on essaie de le maintenir du mieux qu'on peut pour soulager sa douleur, mm-hmm. C'est souvent là qu'il y a des réconciliations. C'est souvent là que les gens prennent conscience de la fragilité de la vie, puis prennent conscience que peut-être il y a certains conflits que
tu n'aurais pas
dû avoir.
OK. Ah, j'avais pas vu et ça de même.
C'est ça.
Puis ils ont plus nécessairement mal avec la médication qu'on peut offrir, en laissant les choses plus naturellement aller. Mm-hmm. C'est la souffrance en 2019, c'est pas mal plus rare. Or, pour quelqu'un de 13 ans, là, ça, c'est sûr que on devrait, à mon opinion, on devrait pas aller près de ça non. Du tout. On a eu le cas de la demoiselle en Hollande, là, récemment, qui a fait couler beaucoup d'encre parce que finalement, c'était pas nécessairement vrai, hein? Ça avait été titré comme de quoi elle avait mm-hmm. eu l'aide médicale à mourir. C'était pas nécessairement le cas. Je pense qu'elle se laisse mourir de faim, par exemple.
Exactement, parce que les parents ont refusé d'accorder l'aide médicale à mourir, mais ils ont accepté qu'elle se laisse mourir parce que là, ils voyaient bien que de toute façon, elle se ferait enlever la vie.
Ouais.
Alors, il y avait comme pas le choix. Il était face à un mur. Mais c'est tout ça le problème, c'est que si on avait de meilleurs soins palliatifs, c'est pas que les soins palliatifs sont de mauvaise qualité, mais ils sont pas accessibles à tous.
Ben non, c'est des OBNL, c'est pas public. Là. Je pense à la Maison du Littoral ici, Maison Michel Sarrazin, ils ont besoin d'énormément de dons et d'aide. Ils en ont, mais tu sais, mm-hmm. c'est vrai que les places sont limitées. Il y en a qui ont attendu ça et qui finalement sont décédés dans des lits d'hôpitaux avec à moitié de la climatisation versus ces places-là où c'est tout autre environnement.
Mais moi, ma mère, elle a été atteinte de l'Alzheimer. Elle est décédée en 2016. Puis, je peux vous dire une chose, c'est que on a voulu essayer de garder le contact le plus longtemps possible avec elle. Mmh. Et c'était précieux parce que c'est comme si elle nous a donné cadeau de la vie, puis nous, on lui donnait cadeau de notre temps à la fin. Pour lui démontrer notre appréciation. Et même si elle nous était plus rentable, bon, on lui manifestait un amour puis un soutien inconditionnel. Et ça, sur le plan humain, là, ça n'a pas de prix.
Parlant de bienfaisance du genre de la Maison Michel Sarrazin ou de la Maison du Littoral, tu avais quelques mots à nous donner sur les normes qui régissent ce secteur-là qui sont dépassées, selon certains. Est-ce que c'est ton cas? Penses-tu que c'est dépassé comme norme pour la bienfaisance? Ce qu'on a au Québec.
Ah oui, ben c'est ça. C'est parce que ce qui arrive, là, c'est qu'on remet en question, ça fait quelques années, Québec solidaire disent est-ce qu'on devrait, par exemple, permettre aux églises ou aux regroupements religieux d'avoir des déductions fiscales? Puis, sais-tu quoi? Il y a une église, par exemple, dans l'Outaouais, qui, eux, ont fait affaire avec une organisation qui s'appelle The Allo Project, et ils ont fait évaluer en disant, nous, là, avec les bénévoles qu'on a, les quelques salariés qu'on a, puis le budget qu'on a, ça représente quoi en valeur socio-économique?
Okay.
Alors, ils ont réalisé que à cause qu'il y avait du bénévolat, il y a des familles qui étaient servies, il y a de l'aide humanitaire, il y a des ressources pour les jeunes, pour les enfants, chaque dollar investi valait 4,6 $.
Ouais.
Donc, si la ville disait, OK, vous allez payer vos taxes, mais la ville perdrait 4 fois plus d'argent parce que il y a du bénévolat qui cesserait ou qui diminuerait.
On s'entend alors, quand même qu'il y a des organisations religieuses ou entre guillemets religieuses qui bénéficient de ce genre de choses-là, puis qui font pas la bienfaisance qu'on souhaiterait qu'ils fassent. Il faudrait faire un ménage, effectivement. Ça risque de tout être un chantier. Puis je pense que l'électorat est pas affamé là-dessus, nécessairement.
Mm-hmm.
Ça va prendre du temps, hein, peut-être. On a le temps de se reparler à l'automne avant que ça avance. Ça, j'ai bien l'impression.
Oui, parce que j'ai une solution là-dessus qui répondrait à ce que tu viens d'apporter. Mais on pourra se garder l'été de congé puis en reparler en septembre.
Assurément. Éric, merci pour la belle saison. On se reprend peut-être la fin de l'été, assurément l'automne. Merci pour tout.
Ah, ben ça a été bien apprécié. Salutations aux auditeurs. C'est bien le fun. Vous êtes une salle de belle équipe.
Merci, mon ami. Éric Lantier, ericlantier.net pour communiquer avec notre chroniqueur des lundis, 17h30.